Thé Combe, Jeune Angleterre. Tournesol. Chapitre 00. Chacun sait qu'à Londres, Kensington est le quartier des artistes. Ses rues paisibles sont une oasis de silence dans le brouhaha de la métropole. Les grands arbres de ces deux parcs lui font comme un horizon de campagne. Derrière les grilles, des pelouses d'un vert intense caressent le regard. Les maisons, luxueuses et hautaines dans le voisinage de Holland Park, fières de leurs sculptures et de leurs balcons, sont petites et modestes pour la plupart dans le vrai Kensington. Elles prennent des airs de villa avec leurs jardins qui les séparent du trottoir, leurs massifs de lauriers et de rhododendrons et le lierre touffu qui envahit les murailles. Quelques-unes, bâties en caillou-boutis bleuâtre et dans le style vieux-neuf, mélange d'Élisabeth et de gothique, sont éminemment vulgaires. Mais d'autres élèvent au-dessus de la rue de vieux pignons pointus bien authentiques où les tons mats du chêne qui encadrent les fenêtres s'harmonisent avec le rouge pâli des vieilles briques. Quand, au sortir des artères commerçantes qui enserrent Kensington d'un îlot de bruyante activité, on pénètre sans transition dans ces rues solitaires, c'est pour y trouver un silence presque intimidant. Le bruit de vos pas sur le trottoir semble indiscret. Il résonne comme dans le château de la Belle au bois dormant. Vous avez la certitude désagréable de faire événement dans le quartier. Si vous êtes doué d'une grande indépendance de caractère, vous relevez alors le menton d'un air indifférent et, lorsqu'à votre approche, un coin de rideau écarté par une main furtive vous laisse apercevoir deux yeux curieux, vous rendez avec usure le regard critique qui a glissé sur vous. Vous examinez chaque maison comme si vous méditiez d'en devenir l'acquéreur et bien souvent, ces demeures muettes vous révèlent quelques secrets. L'une est peinte en vert pomme comme un souvenir de Hollande. Des hyacinthes et des tulipes, poussant toutes droites dans des jardinières de faïence historiées, égaient encore cette façade déjà trop gaie. Sur la plaque de cuivre, brillante comme le soleil, vous lisez dans un éblouissement « Zuiderzee Villa ». Vous passez. Plus loin, un porche de chêne bruni se cache sous des guirlandes de vignes vierges, d'un air à la fois modeste et coquet. La maison est petite. Si vous saviez qu'elle est la demeure d'une charmante artiste dont les aquarelles et les croquis gracieux sont devenus populaires, vous vous y arrêteriez peut-être un instant. Mais personne n'est là pour vous l'apprendre. Les ateliers du vieux Kensington sont pour la plupart loués à des débutants, à des rapins excentriques ou à des artistes laborieux qui y trouvent la lumière moins chère qu'ailleurs. Si vous croisez sur le trottoir un homme à moustache grisonnante, au regard perçant et railleur, qui vous toise de la tête aux pieds et semble vous trouver bien philistin, ne vous en offensez pas trop. C'est le seul privilège que sa qualité de peintre lui ait procuré jusqu'à aujourd'hui. Son habit râpé et son linge douteux ne le prouvent que trop. Là-bas, tout au bout de la rue, dans cette petite maison d'une simplicité puritaine, court et trotte allègrement, malgré son âge, une fine plume à laquelle bien des éditeurs ont fait la cour. Et savez-vous qui demeure en face, derrière ces rideaux roses? La diva de la saison, l'étoile des concerts classiques. Le matin, car elle est matinale, quand elle répète ses trilles flûtées, tout le quartier ouvre ses fenêtres pour l'entendre. Mais ce n'est pas à la porte de ces notabilités de la plume, du pinceau ou de la double croche que nous allons sonner. Les talents qui ont réussi appartiennent aux chroniqueurs, non aux nouvellistes. Tournons le coin de la rue. Nous nous trouvons dans une impasse encore plus silencieuse que le square voisin. L'herbe pousse entre les dalles du trottoir. À droite et à gauche s'élèvent de hauts murs couronnés de lierre. En face, deux petites maisons jumelles et contiguës vous ferment carrément le passage. Extérieurement, elles sont pareilles de tout point. Chacune a ses trois fenêtres de façade, son petit portique à colonnes blanches, son balcon, son poirier du Japon près de la grille. La seule différence qui vous saute aux yeux est le nom de l'une des jumelles, Villa Tournesol, inscrit à l'entrée, tandis que l'autre a dédaigné de se mettre en frais d'imagination et s'appelle tout prosaïquement numéro 7. Mais pourquoi Villa Tournesol? Vous l'avez déjà deviné, pour peu que vous ayez passé à Londres une quinzaine seulement, et vous vous dites « il y a de l'esthéticisme là-dessous ». Mille pardons pour ce nom barbare. Prenez-vous-en aux inventeurs. Depuis 3 ou 4 ans déjà, car en Angleterre les manies même ont la vie dure et participent à la ténacité britannique, le tournesol est la fleur mystique, le symbole quasi sacré devant lequel s'inclinent tous les esthètes. L'esthète est un type bien difficile à définir. Il en existe 4 ou 5 variétés dont la classification n'est pas encore faite. L'esthète est un homme possédé de la manie du beau, mais du beau tortillé, alambiqué, méconnaissable. Il cultive l'archaïsme, il adore les vieilles faïences, les vieux cuirs, les couleurs fausses, la peinture byzantine, la mandoline, les poses fatales et les adverbes incommensurables. Il a des extases et parfois des syncopes. Son prophète se nomme Oscar Wilde et il parcourait l'autre jour l'Amérique pour y prêcher la réforme du costume. Du reste, nous aurons tout loisir de faire connaissance avec quelques adeptes notables du grand culte. C'est pour cela que nous sommes venus à la Villa Tournesol.